teacher. Okay. Well, God does amazing things. Okay, alors on va prier et on va commencer pour ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons de ce moment que tu nous accordes afin de plonger nos regards dans ta parole. Et nous savons, Seigneur, que ce moment est tout le temps riche parce que suscité, créé, pensé, pourvu par toi. Alors ce matin, Seigneur, étends ta main et ouvre notre entendement. Permets-nous une fois de plus de recevoir cette portion de nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Non seulement pour faire une différence dans notre vie en cette journée, mais aussi, Seigneur, pour marquer une différence dans la suite des choses. Sois notre maître, sois notre potier, et tu vois l'argile que nos vies sont. Et si cette argile s'assèche, nous te demandons, Seigneur, de déverser sur nous tes saintes ondées, afin, Seigneur, de nous rendre malléables, flexibles entre tes mains, afin, Seigneur, de nous façonner à l'image que tu désires. Fais de ma sœur ce qu'il te plaît, fais de mon frère ce qu'il te plaît. Fais de moi-même, Seigneur, ce qu'il te plaira, sachant, Seigneur, que tout ce que tu fais est parfait. Nous te faisons confiance et tout notre espoir et toute notre confiance est placée en toi. Tu es notre maître, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Tu as tous les droits sur notre existence. Que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi, en ce jour, pour le restant de la journée et jusque dans l'éternité. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Juste m'assurer que les volumes sont baissés. Voilà. Alors, 1 Pierre 2, 9, je lis pour vous notre texte. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Depuis le début de la semaine, on voit donc ce passage important dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire du peuple d'Israël, où Pierre va s'adresser à ses concitoyens, à ses frères chrétiens, mais d'origine juive, en leur disant que maintenant que l'Église a été initiée, puisqu'on est à l'époque de l'Église primitive, alors que Jésus a initié l'Église à travers ses 12 apôtres, il dit à ses frères juifs que l'hégémonie, la prédominance qu'ils avaient auparavant, a maintenant été partagée, non plus strictement réservée aux Juifs, mais maintenant un accès a été donné à l'ensemble de l'humanité, donc aux païens, ou à ce que la Bible appelle aussi les gentils. Et ça pose un problème pour les Juifs de l'époque, mais aussi pour les chrétiens d'origine juive, parce qu'ils arrivent avec tout leur bagage intellectuel, avec tout leur bagage théologique, qui faisait que leur nation, leur peuple, était considéré comme la propriété de Dieu, contrairement à toutes les autres nations. Et là, Pierre leur annonce que dans l'Église, à l'instar de ce que Paul avait déjà annoncé à plusieurs reprises, il n'y aurait plus ni juifs ni grecs, mais il y aurait un assemblage de croyants, de frères et de sœurs en la foi, qui seraient réunis avec un seul point commun qui est la mort de Jésus et de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Alors cette semaine, on a vu des notions sur la génétique, sur la race, sur ce nouvel office qui est ouvert à tous et chacun, juifs et non-juifs, d'être des sacrificateurs et d'être des enfants royaux dans la famille de Christ. Hier, on a vu qu'on était une nation sainte et aujourd'hui, on voit la notion d'un peuple acquis. Alors, peuple, c'est le terme laos, comme le pays, ça s'écrit comme le pays, L-A-O-S, et il revient 143 fois dans le Nouveau Testament ou en version grecque. Et dans laos, on parle d'une foule, d'un peuple, d'un État dans le principe de nation, de gouvernement, une maison comme la maison de David, la maison de telle ou telle personne, donc la maisonnée, les membres d'une famille. On parle d'une commune comme d'une ville et on parle d'un assemblage de personnes qui vivent dans un même lot, dans un même territoire, qui vivent dans un même endroit ou qui auraient la même langue. Le terme acquis, le terme péripoiesis, qui s'écrit P-E-R-I-P-O-I-E-S-I-S, je répète, P-E-R-I-P-O-I-E-S-I-S, revient 5 fois dans le Nouveau Testament. Et dans 1 Pierre 2, il revient non seulement au verset 2, mais aussi au verset 10 qu'on va avoir l'occasion de voir tout à l'heure. Et quand on parle de péripoiesis, on parle de quelque chose qui a été préservé, quelque chose qui est la propriété de quelqu'un, quelque chose qui a été obtenu, qui a été acheté, dont les droits ont été acquis, donc comme un droit de propriété sur un terrain, ou quelque chose qui a été acquis avec joie et avec plaisir. Ici, c'est important de noter que péripoiesis parle d'une acquisition, mais pas une acquisition qui est faite à contre-cœur, une acquisition. Un peu comme lorsque, pour la plupart des gars habituellement, lorsqu'un homme achète une voiture, il est content de son nouveau véhicule, et il en fait mention et il en fait affichage. Peut-être une belle paire de souliers pour certaines dames. Je sais que Daphné aime les souliers, aime les bottines, aime les sacs à main. Pas qu'elle n'en ait des tonnes et des tonnes, mais je sais que c'est quelque chose qui lui fait plaisir à s'acquérir. Et ici, lorsqu'on parle d'un peuple acquis, donc un peuple acquis par Dieu, on parle d'une notion de joie chez Dieu dans le fait d'acquérir, dans le fait de faire l'acquisition de ce peuple. Donc ici, on parle encore d'un nouveau départ, un nouveau départ avec un droit de propriété qui a changé, un droit de propriété qui a été racheté, qui a été récupéré, parce qu'à la base, on appartenait à Christ. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, notre droit de propriété envers Dieu a été coupé et nous avons été propriété du péché, propriété du royaume des ténèbres. Et Christ qui meurt à la croix et nous qui le recevons comme notre Seigneur et notre Sauveur, on fait donc cette transaction. Et on va parler d'une transaction importante tout à l'heure qui est un peu un signe précurseur de ce que Jésus a eu à faire. Donc on parle d'un rachat de notre peuple, de notre part, et cette propriété maintenant est acquise par le Seigneur Jésus. Alors, premier point lié au terme laos, peuple, c'est un peuple qui a été créé, assemblé, rassemblé et fusionné. C'est un peuple qui n'existait pas, 1 Pierre 2, 10 va nous dire, mais on a été rassemblé. La Bible va nous dire dans plusieurs passages qu'on a été acquis et ramené de différents endroits sur la surface de la terre pour former un peuple pour Dieu. Donc c'est un peuple que Dieu s'est créé. En français, le terme peuple acquis est moins intéressant que ce qu'on peut retrouver dans certaines autres versions en d'autres langues. Notamment dans certaines versions en anglais, on nous dit que ce peuple, Dieu se l'est acquis pour lui-même. Ça veut dire qu'il se l'est fait pour lui-même, il se l'est créé pour sa bonne intention, pour sa propre volonté. Donc, on est un peuple qui a été créé, qui n'existait pas. On est un assemblage de différents représentants de différentes nations, comme on l'a vu cette semaine. Nations qu'on laisse de côté, races et ethnies qu'on laisse de côté pour être le peuple de Dieu. Donc, Dieu avait le désir de de nous créer en tant que peuple. Dieu avait le désir de nous voir, nous fusionner les uns aux autres afin de former ce peuple. Et quand je suis réfractaire à faire partie du peuple de Dieu, je suis par conséquent aussi réfractaire à la volonté de Dieu. Comme je l'expliquais cette semaine, je ne peux pas dire être attaché à Christ et ne pas accepter de m'attacher à son Église. Je ne peux pas dire que j'appartiens à Christ si je refuse d'appartenir à l'Église. Et quand je parle d'Église, je ne parle pas simplement de l'Église globale, mais aussi de l'Église locale que représente chacune de nos congrégations. Je pense que lorsque la Bible nous dit, notamment dans Hébreu, de ne pas abandonner nos assemblées, comme c'est la coutume de certains, je pense qu'il parle effectivement non pas de l'Église globale. Je pense que ceux qui interprètent cela comme l'Église globale, c'est une excuse pour faire ce qu'on a appelé le phénomène du pigeon voyageur qui se promène d'une église à l'autre. Je pense que lorsqu'on nous dit de ne pas abandonner notre assemblée, on nous parle effectivement de cet endroit où Dieu nous place dans un corps local qu'est l'Église locale. Et je crois qu'il nous faut nous enraciner, il nous faut croître dans cet endroit qui représente la maison pour chacun d'entre nous. Donc ce désir-là que Dieu avait de nous rassembler, lorsque je m'oppose directement à Dieu, parce que ça fait partie du plan de Dieu pour le croyant, ça fait partie du plan de Dieu pour l'Église. La communion fraternelle, la vie en communauté, la croissance en communauté est partie prenante de la vie chrétienne. Si je me soustrais à cette vie communautaire et à cette vie en groupe, je me soustrais de surcroît à la pensée de Dieu et à la volonté de Dieu pour le croyant. Deuxième point, toujours dans le terme Laos. Laos nous parle d'un peuple qui est dans un même lieu, dans un même endroit, d'une même langue et qui vient d'une même source. Et vous savez tous et chacun quelle est notre source commune. C'est vrai que nous pouvons avoir des langues qui diffèrent. Nous pouvons avoir des couleurs qui diffèrent. Nous pouvons avoir des origines qui diffèrent. Nous pouvons avoir des coutumes, des us, des pratiques dans notre vie de tous les jours, dans l'alimentation, dans le sport, dans la culture, dans la pensée, dans comment on mène sa vie. On peut avoir des différences et des divergences d'opinion, mais nous avons malgré tout une même et seule source commune qui s'appelle Christ. Christ a engendré l'Église. Christ a initié l'Église. L'Église a pris son envol, a été créée au moment de la présence de Christ ici-bas sur terre, lorsqu'il a envoyé ses disciples. Le pasteur Sergio parlait hier à un moment donné, dans le court extrait que j'ai vu, parlait à un moment donné de la Grande Commission. Et lorsqu'effectivement Christ envoie ses disciples, ses apôtres, ses serviteurs, pour faire des disciples de toutes les nations, c'est là qu'il initie l'Église. Et nous prenons donc notre source, même 2000 ans plus tard, à Christ. Donc nous avons une seule et même origine, Christ. Point numéro 3 pour aujourd'hui, et on passe maintenant au terme péripoiesis. C'est un peuple qui a été acquis. Mais acquis, c'est acquis avec un prix. Ça a coûté quelque chose. L'acquisition veut nécessairement dire acheter. Que ce soit parce qu'on a troqué quelque chose, donc j'ai donné quelque chose à quelqu'un et lui en retour il me donne autre chose, ou que ce soit parce que on débourse un montant. Parfois ça peut être tout simplement aussi prendre une responsabilité. Puisque je prends une responsabilité par rapport à cette chose-là, cette chose m'est remise par la personne qui la possédait auparavant. Et ici, le prix qui a été payé pour notre acquisition en tant que peuple se trouve expliqué dans Actes au chapitre 20 et le verset 28. Et je lis pour vous, Actes 20, le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, Église qu'il s'est acquise par son propre sang. Église qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc, l'acquisition de l'Église, l'acquisition de ta vie, de ma vie, s'est fait au prix du sang, au prix de la vie de notre Sauveur et de notre Seigneur. Lorsque je méprise cette acquisition, lorsque je refuse mon accession ou mon adhésion à l'Église de Dieu, ben par conséquent, je suis aussi en train de mépriser le prix qu'il a eu à payer. Et sachant qu'il n'y a pas un prix comparable à celui-là, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Christ a donné sa vie pour nous. Il va dire que personne ne prend sa vie, mais que c'est lui qui la donne. Et il va dire qu'il nous appelle ses amis. Donc effectivement, il a donné sa vie pour les amis que nous sommes et pour l'Église à laquelle il nous appelait à appartenir. Alors mépriser l'Église, refuser d'en faire partie, s'opposer à notre adhésion à l'Église, c'est aussi s'opposer au coût que représente l'acquisition de l'Église. Mais de surcroît à cela, si on se déplace vers notre prochain, refuser l'accession à quelqu'un à l'Église, c'est aussi refuser le prix qui a été payé pour cette personne ou rendre nul le prix qui a été payé pour cette personne. Certes, lorsque je viens à Christ, il y a des choses que j'abandonne. Certes, lorsque je vais à Christ, il y a un processus dans lequel je passe et dans lequel je dois abandonner ma vie passée, ma vie de pécheur ou de pécheresse, ma vie d'iniquité. Mais si effectivement je remplis ces critères qui font de moi ou qui me caractérisent comme étant un enfant de Dieu, si je remplis ces critères, alors nul ne peut s'opposer à mon accession à l'Église. Et je dirais, je rajouterai une note personnelle qui me vient à l'esprit maintenant. Il y a quelque temps, on a parlé de retourner à la maison de Dieu. On a parlé de ce fils prodigue qui revenait vers son père et de l'attitude du frère aîné qui va s'opposer à la joie et à la fête qu'on va célébrer en vertu du retour du frère cadet. Mais parfois, nous aussi, lorsque quelqu'un arrive à l'Église, l'attitude qu'on a peut faire en sorte que cette personne soit réfractaire à se joindre à nous. Alors faisons attention que par notre comportement, par notre attitude, nous n'ayons pas cet état d'être qui repousse les gens et qui garde les gens à l'extérieur des pourtours de l'Église. Parfois, on regarde l'Église comme un petit village, puis lorsqu'on voit un étrange se joindre à nous, ben là, on le regarde avec un regard différent, puis on se demande un peu où la personne pourrait se demander, est-ce qu'elle n'est pas en train de me dire, qu'est-ce que je fais ici, je suis pas bien accueilli, alors je repars. Alors faisons bien attention de ne pas être un instrument qui repousse les gens, mais plutôt être des instruments qui amènent, qui greffent, qui incorporent les gens à l'Église et qui travaillent le temps venu à la métamorphose de ces gens, à la transformation de ces gens, à la purification et la sanctification de ces gens. Oui, ces gens qui vont arriver vont avoir des choses à changer, vont avoir des choses à abandonner parce qu'ils accèdent à Christ, parce qu'ils rentrent dans l'Église, mais nous serons des instruments, un, pour les accueillir, deux, pour assurer qu'ils restent au sein du corps de Christ, et trois, nous serons aussi des instruments selon la sagesse et la grâce et l'amour que Dieu nous donne pour assister ces nouveaux bien-aimés dans leur transformation et dans leur sanctification. Un quatrième point, toujours avec Peiri Poiesis, on est un peuple qui a un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun, on le retrouve dans le verset 10, donc le verset suivant, 1 Pierre 2, 10, qui nous dit « Vous qui n'étiez pas un peuple, maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Autrefois, chacun des peuples était peuple par lui-même et pour lui-même. On a parlé hier des différentes nationalités. comme quoi notre appartenance au peuple de Dieu prime sur notre appartenance nationale. Et je prenais par exemple moi-même, même si j'aime profondément Montréal, avant d'être Montréalais, je suis membre du peuple de Christ. Je suis né en France, donc mon génos dit que je suis moitié français, moitié italien. Mais avant que je ne sois moitié français, moitié italien, je suis premièrement et de façon pleine et totale et primordiale, je suis enfant de Dieu, membre du peuple de Dieu. Et ici, on nous dit, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Avant, on était des Français, avant, on était des Canadiens, avant, on était des Québécois, avant, on était des Montréalais, avant, on était peut-être des Rosemontois, je ne sais pas si ça se dit pour le quartier de Rosemont, ou des Roxboriens, je ne sais pas, ça c'est le quartier où j'habite, mais c'était ce qu'on pouvait être auparavant. Mais parce que je suis à Christ, je suis tout d'abord enfant de Dieu, je suis tout d'abord membre du peuple de Dieu, et ça doit primer sur toute autre caractéristique. Et notre point commun, c'est que j'habite à Taïwan, que j'habite en Thaïlande, que j'habite au Botswana, que j'habite en Afrique du Sud, que j'habite au Brésil, au Danemark, en France, ou à Montréal, ou même à Jérusalem, avant que je ne sois quoi que ce soit, ma première identité est que je suis enfant de Dieu, membre du peuple de Dieu. Notre point commun, c'est que peu importe où nous sommes, d'où nous venons, nous sommes enfants de Dieu. Cinquième point, c'est un peuple qui a un objectif commun. Quelques objectifs communs qui sont mentionnés dès la création de ce peuple ou dès la mention que nous sommes peuple de Dieu. Regardons simplement le texte qu'on va avoir demain comme pensée. Reprenons le verset 9. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Afin que vous annonciez les vertus, afin que vous annonciez l'excellence, afin que vous annonciez les qualités de celui qui vous a appelé. Dans Éphésiens au chapitre 1, le verset 14, Éphésiens 1, on peut même lire à partir du verset 13, donc le verset 13 et le verset 14 nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, par lequel ou lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. » Tout à l'heure, c'était pour annoncer les vertus, et là, on nous parle la louange de sa gloire. C'est en fait la même chose. Nous sommes là pour annoncer, pour célébrer, pour louer sa gloire. Le point commun de l'ensemble du peuple de Dieu, la première fonction de ce peuple, la première tâche de ce peuple, c'est de louer la grandeur de Dieu, de lui rendre un culte agréable, de louer notre Seigneur, d'adorer notre Seigneur. Dernier point pour ce matin, on nous parle de l'acquisition d'un peuple, mais pourquoi Dieu s'est-il acquis ce peuple? Pourquoi a-t-il voulu un peuple? Ben, il s'est acquis un peuple pas pour se satisfaire lui-même, mais la Bible nous dit dans le verset probablement le plus célèbre du Nouveau Testament, du moins, et le plus célèbre de tous les croyants et de tous les chrétiens, c'est Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ici, on nous parle de cette acquisition acquise au prix du sang, au prix de la mort du Fils de Dieu, de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Mais pourquoi Jésus a-t-il été donné? Parce que Dieu a tant aimé le monde. Et pour ce monde qu'il a tant aimé, il a donné son Fils. Et quiconque croirait en ce Fils, quiconque ferait de ce Fils immolé, de ce Fils sacrifié, son Seigneur et son Sauveur, serait sauvé et préservé pour l'éternité. La raison de cette acquisition de ta vie, de ma vie, en tant qu'enfant de Dieu et en tant que membre du peuple de Dieu, c'est parce que Dieu nous aimait. C'est par amour que Dieu s'est choisi un peuple. C'est par amour qu'il a sauvé ces gens-là, qu'il a rassemblés de tout horizon et de toute origine pour en faire un seul et même peuple qui le célèbre. Et ce matin, lorsqu'on pense à cette acquisition, on ne peut faire autrement que de louer notre Dieu pour l'amour qu'il a eu envers nous et cet amour qu'il témoigne encore aujourd'hui. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a un exemple merveilleux dans la parole de Dieu quant à un pacte d'acquisition qui est un peu un signe messianique, un signe prophétique de ce que Jésus plus tard a fait. Et l'exemple merveilleux, c'est dans la vie de Ruth. Ceux qui me connaissent savent que ce livre de Ruth qui contient simplement 4 chapitres est probablement mon livre préféré. L'histoire de Ruth est merveilleuse. Elle est belle dans la personne de Ruth et dans l'amour que Ruth va témoigner envers sa belle-mère Naomi et envers par la suite le peuple d'Israël et envers cet homme qui va devenir son mari, Boaz. Mais c'est aussi merveilleux dans le personnage de Boaz et cet amour qu'il va témoigner envers Ruth, qui n'est pas une juive, qui arrive de l'extérieur et qui est effectivement une païenne et qu'il va accueillir, secourir et racheter pour être sa femme. Et on voit ce passage dans Ruth au chapitre 4. On sait que quelqu'un d'autre a des droits sur Ruth. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Ruth, Ruth est une jeune femme moabite qui vient du pays de Moab, en fait, et moabite, donc du pays de Moab, et qui s'est mariée avec un jeune homme, un juif, qui est venu dans le pays de Moab parce qu'il y avait la famine en Israël. Et peu de temps après ce mariage, tant elle que sa belle-sœur qui s'était mariée avec le frère du mari de Ruth, les deux hommes décèdent, et même les trois hommes, parce que le mari de Naomi, la belle-mère, décède aussi. Alors elle se retrouve simplement Naomi, Ruth et sa belle-sœur, Orpa. Et Naomi va dire, moi je retourne en Israël parce que j'ai tout perdu ici. Et elle dit à ses filles, retournez dans la maison de vos pères et allez vous trouver un mari chez votre peuple. Ne venez pas avec moi parce que je n'ai plus rien à vous offrir. Orpa va laisser sa belle-mère, va prendre le conseil de sa belle-mère et va retourner effectivement auprès des siens. Mais Ruth va décider de suivre sa belle-mère avec un des plus beaux versets de ce livre, mais aussi de l'ensemble des Écritures, où elle dit à sa belle-mère, et on a eu l'occasion de l'étudier au début du confinement, « Ne me presse pas de te laisser, laisse-moi aller avec toi, ton peuple sera mon peuple, j'irai là où tu iras, je m'arrêterai où tu t'arrêteras, je mourrai même où tu mourras, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. » Des phrases et des mots lourds en sens pour cette femme païenne, cette femme moabite, et qui dit, je vais m'identifier avec toi à un tel point où je vais même m'identifier avec ton peuple et avec ton Dieu. Et c'est effectivement ce qu'elle va faire. Et elle va le faire à un tel point que lorsqu'elle retourne en Israël, ce fameux Boaz va la voir travailler dans son champ, va être interpellé par la beauté de cette jeune dame, et va se renseigner sur qui elle est. Et il se rend compte que dans la tradition juive, il y a quelqu'un d'autre qui a un droit de rachat sur elle. Il y a quelqu'un d'autre qui peut la prendre comme femme et faire en sorte qu'elle ait une postérité pour les enfants de son défunt conjoint. Donc Boaz est obligé d'aller voir cet homme-là et de faire une tractation en lui disant, voici Ruth, Elle vient d'arriver avec sa belle-mère Naomi et toi, tu as un droit de rachat sur elle. Tu as le droit de propriété sur elle. Est-ce que tu veux exercer ton droit de propriété? Et si tu l'exerces, voici les responsabilités qui viennent avec. Mais si tu ne l'exerces pas, dis-le-moi et moi, je prends acquisition de cette dame-là. Et effectivement, Boaz va avoir le droit de rachat, va marier Ruth et va faire que Ruth deviennent partie prenante d'Israël. Et ça, c'est le même cas avec nous, ce que Jésus a fait. Nous n'étions pas un peuple, nous ne devions pas être un peuple, nous n'avions pas accès au peuple de Dieu, mais Christ nous a rachetés et nous a, par amour, comme Boaz envers Ruth, nous a acquis par amour afin d'être avec lui pour l'éternité. Et l'histoire de Boaz et de Ruth est tellement merveilleuse qu'elle se retrouve même dans le Nouveau Testament, dans un passage qui est parfois lu avec peine et avec lourdeur, la généalogie de Jésus. À un moment donné, au verset 5, on nous dit « Naasson engendra Salmon », donc dans Matthieu 1, le verset 5, « Salmon engendra Boaz de Rahab ». Boaz engendra Ruth d'Obed, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Donc ici, on a Rahab, la prostituée, qui se marie à Salmon. Eux vont avoir Boaz, et Boaz qui a eu un tel exemple merveilleux de son père qui a accueilli Rahab, la prostituée, va la prendre et va faire en sorte que ils vont initier Obed, qui va par la suite avoir Isaïe, qui va par la suite avoir David. Donc Rahab, Ruth, qui deviennent elles deux des femmes dans la lignée de Jésus. Et en fait, on va mentionner quatre femmes dans la lignée de Jésus, ou cinq femmes dans la lignée de Jésus, et trois d'entre elles ont des vécus qui sont pénible et difficile. Mais on va se limiter aujourd'hui à Ruth. Ruth, la Moabite, qui devient la grand-mère ou l'arrière-grand-mère de David, le roi, et qui par conséquent devient un jour une arrière-arrière-arrière-grand-mère du Messie d'Israël et de l'humanité. Est-ce que ce n'est pas une histoire merveilleuse? Dieu nous a acquis parce qu'il nous aime, comme Boaz a acquis Ruth parce qu'il l'aimait. Alors c'est ça le message pour nous aujourd'hui. Nous sommes un peuple acquis pour célébrer Dieu, pour élever la gloire de Dieu, et nous avons été acquis parce qu'il nous aime profondément et parce qu'il nous voulait à ses côtés pour l'éternité. Alors prions et après ça on saluera les gens qui se sont joints à nous depuis le début de notre étude. Alors Seigneur, merci. 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 Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous tes enfants. Merci, Seigneur, de nous avoir rachetés à un prix, Seigneur, qu'aucun d'entre nous n'aurait pu défrayer ou payer. Au prix de ton sang, au prix de ta vie, tu as fait de nous ton Église, ton corps, ta fiancée, ton épouse. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir tant aimés. De nous avoir tellement aimés que tu ne pouvais nous voir aller dans la perdition éternelle sans nous sauver, sans envoyer la bouée de sauvetage dont nous avions besoin. Et Seigneur, merci de nous avoir accordé cette bouée qu'est Jésus. Et en rien, Seigneur, on minimise ce qu'il a fait, ce que tu as fait à travers l'utilisation d'un terme boué. Mais vraiment, Seigneur, tu nous as sauvés de la mort. C'est toi qui nous as ramenés à terre. C'est toi qui nous as ramenés à être ton fils et ta fille, partie prenante de tes plans, de tes projets et de ta vision. Alors merci, Seigneur. Merci pour cet amour incommensurable. Merci, Seigneur, pour cet amour qui ne peut être décrit, saisi pleinement, mais dont nous bénéficions à chaque jour. Alors ce matin, Seigneur, je demande et j'appelle ta bénédiction sur mon frère et sur ma sœur, que nous puissions, Seigneur, effectivement ouvrir nos bouches et te célébrer pour cet amour que tu as manifesté envers nous, mais qu'on parle aussi aux autres autour de nous de tes vertus, de ta grâce, de ta miséricorde, de ta bonté, de ta fidélité, de ta patience, de ta douceur, de ton amour, afin que d'autres, bien nombreux aussi, provenant de différents horizons, puissent se joindre à nous au sein de ton peuple, de ta famille. Bénis-nous tout au long de cette journée. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, saluons quelques personnes. Je me rappelle qui j'ai vu en dernier. Donc, la hermana Flori, le frère Louis, Dieu vous bénisse. Denise de Montagne, Dieu vous bénisse. Ramon, Dieu te bénisse. Chanel, bonjour. Bonjour à Nenji. Bonjour à ton époux, à Jacqueline. Bonjour à Farley, à sa maman. Bonjour Vitar. Bonjour à Javel aussi. Bonjour à la sœur de Gazon et à son époux. Alors voilà, c'était tout pour ce matin. Donc on vous rappelle les annonces importantes. L'inscription a toujours lieu et toujours cours pour l'assemblée de dimanche. On vous rappelle, si vous avez 55 ans et plus et vous êtes une personne seule, vous pouvez vous inscrire. Si vous avez 55 ans et plus, vous êtes une personne en couple, mais simplement vous fréquentez l'église, alors vous pouvez nous appeler aussi pour demander une place. Et enfin, si vous êtes un couple qui fréquente l'église et vous avez 65 ans et plus, vous êtes aussi les bienvenus. Donc, pour ce faire, vous appelez au 273-8295, bien sûr dans le 514, 273-8295, et vous dites, je veux une place ou je veux réserver une place ou nous voulons réserver une place pour l'assemblée de dimanche. Je crois qu'on sera le 12 ce dimanche, 12 juillet. Donc, vous faites ça. La date limite ou l'heure limite pour les inscriptions, c'est demain matin après la prière matinale, après la dévotion matinale. Donc, vous avez encore 24 heures pour vous inscrire. Ne tardez pas. On veut prendre vos noms, les communiquer à la sœur Patricia et c'est elle qui vous appellera par la suite pour réserver une place. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. On se retrouve demain matin pour notre dernière étude de la semaine. Et demain, on verra donc afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée et parlez de notre Seigneur et dites combien vous êtes heureux d'avoir été sauvés et d'être un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.